Vous avez déjà pratiqué la campagne?
Non.
Médecin de campagne, ça s'apprend pas.
CO2, mon amour.
C'est quoi ces canards?
Quel canard?
Là, là, vous avez pas vu? Ils ont voulu m'attaquer, hein.
Bah ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres.
Avec Denis Chessot.
C'est le mal de loi. Oui, moi aussi, un jour, je me suis fait attaquer. 22 points de suture. La seule solution, faut les humilier.
C'est quoi les humilier?
Faut les choper par le cou et puis leur mettre le bec dans le cul. Alors là, ça les humilie, du coup, ils ne mouffent plus. Enfin, vraiment, le bec dans le trou du cul.
Sur France Inter.
Bon, alors nous, on va pas faire du tout pareil. Hein. On va laisser voler donc ces merveilleux oiseaux. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ces carnets de nature de CO2 Mon Amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui à la technique Loïc Frapsaud, c'est assisté de Thomas Lehété. Eh bien, c'est aujourd'hui Fred Milano qui réalise cette émission. Et en cette fin d'année, en refermant un grand livre d'images sonores peuplé de loups, de chouettes, de flamands, de grès des Vosges, de calanques, de crapauds, de renards parisiens, de corbières, d'Atlantique au bord du gouffre, de rivières brésantines de la Creuse, de Léonard de Vinci, de Marais Vernier, de Ruche à Saint-Denis, de Gréco, une Juliette dans son jardin, eh bien vous prendre la main. Regardez surtout comme ça vaut le coup de se battre, d'y aller. Regardez ces femmes, ces hommes, ces jeunes qui s'y emploient. C'est depuis très longtemps, donc vous le savez, l'ADN de cette émission. Alors à sa manière, Fabre d'Églantine s'y est employé en tentant de poétiser l'affaire. Nivose, pluviose, ventose, avant de perdre la tête dans un panier en osier sûrement recyclable. Fabre d'Églantine, donc auteur de Carcassonne, au nom qui sent bon le printemps, avait tenté de faire pousser quelques graines de poésie en faisant pleuvoir des bergères, ou plutôt de la pluie sur les dites bergères. Il pleut, faut ranger les moutons sous le hangar à côté du tracteur de 300 chevaux. Enfin bon, c'était pas ça exactement, mais c'était un peu l'idée. Et donc, il insufflait l'odeur des labours, des moissons, des vendanges et du vent dans les voiles du calendrier républicain. Belle initiative, hein, qui parut trop complexe à certains et révolutionnait par trop le sacro-saint solaire calendrier julien. Donc, paix à son âme, le poète aura au moins tenté d'embellir les choses, de nous relier à la nature. Nivose, donc, eh ben, nous y sommes, puisque décembre, le mois d'hiver, celui où on se calfeutre sans enlever son feutre, où on aimerait bien, comme cousin l'ours, s'endormir dans un trou de mousse, en ignorant superbement à la fois le frimas et la marche du monde vers la falaise. Ah, se réveiller qu'au dernier souffle des éclosions, s'étirer les abatis dans l'odeur des fleurs et se tremper le museau dans la fraîcheur des premières rosées. Ouais, et d'accord, mais on n'a pas du tout été programmé pour ça. Donc il faut affronter les rigueurs, et puis véritablement, il faut y aller. Il s'agit d'affronter maintenant l'année du buffle, ce ne sera pas la première calamité que nous envoient les Chinois, et d'affronter les conséquences hasardeuses de nos comportements assez rivés sur le court terme, donc un poil incompatible avec la survie de l'espèce humaine. Ce ne sera pas facile, surtout si le radeau se disloque comme autant de petites banquises. Il faudra vraiment s'accrocher. Courage, la Terre tourne toujours de saison en saison, et nous allons quand même sortir de cette furieuse année du rat masqué. Alors après ventose, pluviose, viendront germinal, floréal, prairial. Il fera bon se relever les manches et trouver un chemin, alors peut-être sûrement plus escarpé, mais où notre main guidera plus sûrement le pas de nos enfants. Et Fabre d'Églantine, qui connaissait le sujet, nous interpellerait en nous disant « Mais pourquoi vous avez perdu la tête à ce point en 50 ans, à la recherche de fausses lumières, à préférer les fleurs coupées à celles qui éclaboussent les champs et les prés ?» Alors laisse revenir la lumière, petit, laisse la neige, le froid faire du bien au sol. À la croisée des chemins de l'humanité, la route est encore jolie. Solstice d'hiver, la remontada solaire sera-t-elle comme une abeille éclairer l'évidence? On n'est rien sans le vivant et les autres, alors laissez la nature chuchoter à vos oreilles. Alors je vous le disais, véritablement, comme on a besoin, on en a besoin. Eh bien, on va prendre de l'air, on va s'envoler avec Jean Boucaud et Johnny Ras, qui sont des enfants de la baie de Somme. Et donc, ce sont des garçons qui dialoguent avec les oiseaux, ce sont les chanteurs d'oiseaux dans quelques instants. Là, ça vole pas, mais c'est extrait de la playlist. Bah oui, Gaëtan Roussel, c'est ça.
Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil, sur un continent, sur une île, C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour, salut, dans une file, dans les rues sur un fil. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour à en perdre le sommeil, à lui souffler des merveilles. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour. Tu partirais un jour sans regarder demain, sans un petit geste de la main. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais un jour, la tête sur son épaule, l'épaule d'attraction folle. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais.
Sur France Inter, tu ne savais pas. Alors notre formidable société pense souvent que les avions sont plus importants dans le ciel que les oiseaux. Les avions sont cloués en sol, au sol en partie, les oiseaux continuent de voler. Donc ce sont eux et les chauves-souris qui inspirèrent les premiers inventeurs. Aussi on va être léger, on en a besoin dans ce passage de l'année en levant la tête. D'abord c'est excellent pour les cervicales, habituées à s'engourdir vers le bas des écrans.
Wow, formidable lieu là pour se rencontrer. Bonjour cher Jean Boucaud.
Bonjour Denis.
Bonjour Johnny Ras.
Bonjour Denis.
Alors là c'est formidable parce qu'on est donc chez vous dans cette baie de Somme. Nous sommes là en plein printemps et en fait c'est votre studio de répétition. Racontez-nous ça Jean.
Alors on est aux portes du mois de mai et les oiseaux qui sont de retour d'Afrique s'installent ici à cette pointe d'Urdel qui est vraiment pour eux un endroit magique parce que c'est depuis 4 mois qu'ils sont en route. Ils espèrent qu'une chose c'est arriver là en espérant que le buisson soit libre, qu'ils puissent s'installer et trouver une femelle pour passer le printemps et l'été.
C'est à la fois le dortoir, c'est le lieu d'amour et en même temps c'est un lieu, c'est un réceptacle d'émotions incroyables. On a donc cette pointe d'Urdel et alors on peut voir des taches qui sont, on va pas les approcher parce qu'on pourra pas le faire, mais alors ce sont les phoques là aussi Johnny.
Ah des phoques, oui il y a des phoques. En fait, c'est vraiment l'endroit du jeu de notre enfance ici. Hein. Ouais. On est à 10 km de notre bastion local qui est Arrée. Donc à l'intérieur des terres. Et on prenait notre vélo étant petit et on venait dans le studio, c'est-à-dire cet endroit, la pointe du Hourdel. On venait écouter les oiseaux, on venait surtout écouter les oiseaux, mais pas n'importe lesquels. On venait écouter El Rossignol répondre au goéland. Incroyable, l'écosystème se touche en fait, l'écosystème maritime se touche et vient taper dans l'écosystème du marais.
Alors le Hourdel, on est en face donc du Marcanterre, vous avez le Crotoy aussi qui est pas loin, Saint-Valéry qui est juste à côté, et Jean et Johnny sont en fait des enfants de la baie de Somme qui distribue ses lumières et qui joue avec les oiseaux. Alors la nature, c'est leur jardin. Il y avait un papa pharmacien pour Jean Boucaud, un père berger pour Johnny Ras. Ils avaient besoin d'air, de vent, de verre, plus que d'écran, et surtout de ces boules de plumes qui ont sonorisé leur enfance. Ils ont apprivoisé leur chant de terre. territoire, de parade, de nourrissage. Alors certes, ils ont plus de 150 oiseaux dans leur gosier, donc ils sont devenus imitateurs. Mais non, imitateurs, c'est trop réducteur. Ils sont en fait en correspondance, ils sont en dialogue avec les oiseaux. Alors j'aurais remis moi des prix quand ils avaient 12-13 ans, donc c'était au concours du festival de chant d'oiseaux, qui a lieu tous les ans donc à Abbeville. Et donc maintenant qu'ils ont grandi, ils ont une quarantaine d'années, portrait de Jean Boucou et de Johnny Ras, qui ont inventé leur métier chanteur d'oiseaux.
En revenant de l'école, du chemin de l'école, j'avais des goélands qui me survolaient à chaque fois que je rentrais à 5h. Et puis un soir, j'ai eu l'idée de pousser le même cri qu'ils poussent quand eux voient la mer. Alors, entendant ça, j'ai poussé un cri. Et là, au stupeur, les goélands m'ont répondu et ont fait demi-tour. C'était incroyable. J'avais 7 ans et je me suis dit, là, il se passe un truc.
C'était le début du dialogue.
C'était le début du dialogue. Et c'était pas imiter pour imiter, c'est-à-dire que c'était imiter en entraînant une réaction de l'oiseau. Et cette réaction, je crois que je cours après depuis toujours. C'est de ne pas être anodin dans la vie des oiseaux, c'est de faire partie d'eux à un moment. Ouais. Et je recherche ça, et c'est pour ça que je vous emmène aujourd'hui ici. Et c'est de revivre ce moment-là, de voir ce rossignol qui vient d'arriver, et juste d'avoir un petit moment avec lui à partager, et c'est ça qui me fait vibrer.
Et alors, c'était le comment par mimétisme, parce que vous étiez tous les deux copains, que vous l'êtes évidemment toujours, Johnny, pour vous.
Alors, non, parce qu'on est, on a un énorme écart. On a 2 ans d'écart.
Oh,
ce qui est énorme quand on a,
mais bien sûr, quand on est petit.
Mais quand on est petit, oui. Donc, on n'est pas du tout de la même génération. Et Jean rentre chez lui, il sait faire le goéland, il en parle à ses parents, il dit, je crois que je parle aux oiseaux. Et ses parents lui répondent, mais non, c'est pas possible. Donc, il se retrouve avec ce don, mais il sait pas quoi en faire. Il cherche dans tout le village qui pourrait lui apprendre et lui inculquer cette façon de chanter les oiseaux. Donc il cherche quelqu'un qui connaît la nature. Il rencontre un berger, et ce berger, c'est mon père. Donc s'occupait des moutons et connaissait très très bien la nature. Il connaissait tous les chants d'oiseaux. Donc il a inculqué à Jean pendant, j'allais dire, à peu près 1 an, comment imiter les oiseaux. Donc il lui donnait des techniques, il lui disait plus grave, plus aigu, comme du solfège. Ah, oui. Il faisait plus de tri, moins de tri, fais le courlis, fais cet oiseau, fais ci, fais ça. Et moi j'avais 2 ans de moins et j'écoutais. J'ai écouté pendant 1 an et je me suis imprégné moi aussi de mon côté. Et je m'entraînais en cachette. Et un jour, j'ai donné un oiseau à mon père qui était le merle noir. Donc je lui ai fait un oiseau devant ses yeux, ébahi, il s'est dit comment c'est possible. Je ne l'ai jamais montré.
Parce que vous dites, j'ai donné à mon père.
Tout à fait.
J'ai donné un merle.
J'ai donné un merle. C'est ça, c'est cette magie. C'est l'oiseau, le merle, vraiment le représentant du jardin. Et en même temps, Jean, son premier oiseau, c'est le représentant de la mer. Et je crois que c'est ça aussi. On est un peu ces deux représentants, la terre, la mer, le ciel, enfin le regard en l'air. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis tout petit.
Alors on se dit aussi, quand on connaît les problèmes environnementaux, malheureusement, 1 oiseau sur 8 donc, a dégagé dans notre pays. On en a combien ? 160, 170 à peu près ?
Jusqu'à 320. On pourrait dire jusqu'à 320 sur les 450 européens. Donc c'est vraiment le carrefour migratoire. Alors ils ne sont pas tous visibles aujourd'hui. Hein.
450 européens, 320 ici.
Qui ont été notés ici dans l'année, on va dire.
Sur les 10 000, alors ça c'est le nombre d'oiseaux dans le monde.
Voilà. Hein, alors finalement, en Europe, on n'a pas grand-chose. Ouais. Mais c'est la force d'être un carrefour migratoire, c'est qu'on a les oiseaux à la fois qui soient russes, africains, espagnols, islandais, d'Alaska parfois avec le trachémoteux. En fait, tout le monde passe par ici, quelques jours par an. Et c'est ça qui est formidable dans notre calendrier. On a un calendrier en nous, c'est que quasiment chaque jour on se dit « Ah, ça pourrait être le premier jour du trachémoteux. Ah, ça pourrait être le premier jour de l'hypolaïsicterine. » Et c'est ça qui nous a toujours habité, c'est-à-dire que le jour du lendemain, ça va être le nouveau jour de l'arrivée ou du départ d'un oiseau. Donc ça, c'est un rossignol. Il vient de chanter. Je vais lui dire que je suis un rossignol, que je viens d'arriver. Il va faire comme moi. Alors, je vais faire des notes tenues. Ça va faire ti, ti,
comme un
ti,
violon qui s'accorde. Ti,
ti. D'accord.
Et donc, en disant ça, je lui dis que c'est mon arbre. Il va me répondre que c'est lui. Il y en a 3 mâles qui se répondent. Donc, il y a 1 mâle dans le grand sureau.
Ouais.
1 mâle dans ce petit sureau.
Ouais.
Et il y a un autre là-bas dans le saule. Donc, c'est incroyable. C'est 3 mâles qui sont à 20 mètres d'écart. Et c'est 3 mâles. Ils répondent dès qu'on siffle, parce qu'ils ont une angoisse, c'est que s'il y a une femelle qui remonte d'Afrique, elle se pose avec nous. Ça y est, cri de position. Alors il commence toujours son chant par son cri de position, et après il décline son identité. Il donne son âge.
Je suis un rossignol.
Oui.
Et la suite.
Alors à l'intérieur, on entend un petit cri de crapaud. Dans les imitations de crapauds,
ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une petite angoisse. Alors ça peut être tout bêtement un chien qui se promène ou un chat qui est sorti.
Ouais.
Là, il y a l'âge.
Ça,
c'est l'âge. Plus il fait ça, on a remarqué, c'est un scientifique qui s'appelle Amrein, Valentin Amrein, ouais. Suisse, qui a eu des crédits pour étudier les champs des rossignols, ouais. Et il a remarqué que plus ils vieillissaient, plus leur champ devenait complexe. Et plus il y avait de trilles.
Une corrélation entre les trilles et l'âge, en fait. Le nombre d'années.
C'est un peu des cernes sonores, quoi. Hein,
c'est pareil, c'est ça. Exactement.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est que donc, les mâles arrivent 15 jours avant les femelles. Hein. Donc, tous les mâles sont quasiment arrivés. Dès que le mâle s'installe, il prend un poste de champ. Ouais. Il va plus le lâcher pendant quelques semaines. Et toutes les femelles qui vont arriver la nuit, elles migrent la nuit, les femelles, vont en fait être séduites par le plus beau chanteur.
Les moins bons sont les plus jeunes, puisque c'est ceux qui possèdent moins de trilles.
Et là, on l'entend, mais le rossignol, c'est quand même magique. La tessiture, la variation, l'improvisation, il y a tout. Il ne fait jamais la même chose. C'est notre maître.
Alors, Denis, vous pouvez regarder. Là, on le voit dans la longue vue. Ouais. C'est assez magique. Alors, comme tous les oiseaux, il est toujours face au vent. Il essaie de se mettre le plus possible face au vent pour éviter que ses plumes s'effarouchent.
Ouais.
Mais il a, au fond de lui-même, très envie de se mettre dans tous les sens pour que son son aille le plus loin possible. Il a tellement envie qu'on l'entende jusqu'au bout du monde.
Donc il essaie de chercher le meilleur lieu qui résonne, avoir la meilleure acoustique, la meilleure réverb, on dirait presque, chez des gens qui font du son. Donc là, il cherche la cavité, la meilleure cavité dans les forêts, dans les arbustes.
Dans notre enfance, il y avait un pommier sauvage qui était ici.
Ouais.
Et tous les ans, pour le 15 avril, tu avais le meilleur rossignol du monde. Mmh. C'était le rossignol qui chantait, mais c'était magique. Et ça durait 4 jours, parce qu'au bout de 4 jours, il trouvait une femelle. Et après, il s'arrêtait. Il arrêtait de chanter. Mais les 4 jours où tu pouvais l'entendre, c'était juste merveilleux.
Comment les oiseaux, on va dire, transmettent aux petits, que ce soit les pinsons, les rossignols ou les autres?
Alors, on suppose que quand le mâle chante au-dessus du nid, on l'a longtemps cru qu'il ne faisait pas grand-chose, mais en fait, quand il chante au-dessus du nid, il inculque le chant de sa race à ses petits. Les mâles ont la capacité de retenir ce chant. Et alors, ce qui est dingue, c'est que les femelles le retiennent quand même, parce que l'année suivante, quand elles vont devoir choisir un mâle, elles vont choisir un mâle qui chante comme leur père.
Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être.
Votre histoire, elle est fabuleuse, parce que vous partez du local, c'est-à-dire ce sont vos racines, mais évidemment pas l'enracinement, puisque vous êtes maintenant des hommes du monde et des oiseaux, et en partant de votre matrice originelle, ben vous êtes ouvert sur presque tous les continents et tous les fuseaux horaires.
C'était parce qu'on a réussi à s'intéresser à des espèces qui nous apportaient du voyage, qui arrivent avec des valises, qui arrivent avec tout ce qu'ils ont vu, vécu et entendu. Donc on était obligés, on avait envie de s'envoler aussi, non pas comme Icare, mais on avait envie de partir aussi avec eux, et je crois qu'on était baignés comme Nils, un peu comme Nils Holgersson. On avait envie de monter à dos de cet oiseau et de partir avec lui en migration. Oui, c'est vrai que depuis tout petit, on est baigné par ça. Envie de voler, envie de partir.
On a eu une chance, cette rencontre avec l'oiseau, ça détermine notre vie et ça, c'est incroyable, parce qu'on se rend compte que c'est tellement puissant comme vecteur et ça touche tous les hommes du monde.
Et je crois que ça touche aussi tous les arts du monde. C'est-à-dire qu'on a beau voir de la sculpture, de la peinture, de la musique, du théâtre, on peut citer
toujours un oiseau qui est là. Il y a toujours un oiseau qui est présent, il y a toujours une alouette qui arrive.
C'est quand même les seuls êtres, avec les insectes, mais les seuls êtres entre la terre et le ciel. Ouais. C'est quand même ces messagers.
Pour être reliés, c'est pas mal.
Bah, c'est pas mal.
Prise de terre et prise de ciel en même temps.
Ouais, oui, je crois.
Ouais. C'est ça que vous êtes.
Mais oui, c'est ça.
Alors, je vais regarder dans la longue vue.
Vous voyez la demi?
Ça y est,
là. Dans les clématites sauvages.
Ouais.
Alors là, il s'est vraiment mis en position haute. Hein. Il nous domine.
Ah oui, exact.
Comme il chante plus haut que nous, il est sur le point de vue
dominant.
Dominance. Ouais, il est plus fort. S'il y a une femelle qui arrive, c'est avec lui qu'elle va partir. Hein.
Sans faire du quantitatif, à votre actif, vous avez, je sais pas combien de passereaux. Qu'est-ce que vous avez dans les corvidés aussi.
On a une centaine d'espèces qu'on maîtrise assez bien. Ouais. Alors c'est la question, qu'est-ce qu'on maîtrise? Quand est-ce qu'on maîtrise? Quand est-ce qu'on peut juger?
Quand, maîtrise,
quand l'oiseau vous dit, tu peux y aller.
Voilà,
tout à fait. Mais en même temps, il y a des chants qui sont aussi liés à presque, j'allais dire, des saisons. Il y a des oiseaux qui vont émettre certains chants à une saison propre, comme la mésange qui a 30 chants répertoriés. Je pense qu'on en fait à peu près une quinzaine correctes. Mais voilà, il nous en manque 15 autres. Donc, il nous a donné la permission, mais il en manque encore un peu. Ouais. Il manque encore un peu de travail. Et il y a des oiseaux impossibles à imiter. Donc tous les oiseaux qui ont vraiment un organe siffleur, qui est la syrinx, qui possèdent aussi ce côté métallique, ouais, et qui ont une dextérité qu'on ne peut pas avoir, qui vont trop vite pour nous.
Alors lesquels vous ne pouvez pas imiter?
Ah oui,
tout ce qui est rousserolle, les fauvettes aquatiques, ce qu'on appelle les fauvettes aquatiques, c'est très très compliqué, c'est trop virtuose, c'est trop rapide, c'est trop puissant, il y a trop d'imitations. Je pense comme tous les musiciens qui vont voir leur maître absolu, on s'assoit, on prend un cours, et puis on dit respect, c'est trop trop fort.
Petite mésange là, vous disiez?
La petite mésange charbonnière.
Et vous voyez, il y a deux sons différents là, ouais. Et pourtant c'est le même oiseau. Ouais. Et c'est deux champs de territoire aussi.
Alors c'est quand même dingue, parce qu'on peut arriver donc à bluffer un oiseau, quoi. C'est ça, ça c'est le grand jeu que vous avez, j'imagine. Pas pour vous dire ça y est, je l'ai eu, mais je suis en phase avec lui.
C'est plus que bluffer, hein. C'est,
ah non, bien sûr.
L'idée c'est de rentrer dans une communauté.
Voilà.
C'est-à-dire que les oiseaux attendent, un homme rentre dans une forêt, rentre dans un marais, bah, tout le monde l'a vu, hein. Tous les oiseaux l'ont vu, l'ont repéré, il y en a toujours un qui a sonné l'alarme, et d'un seul coup tout s'est un petit peu arrêté. Et c'est tellement extraordinaire, juste en trois notes, d'être capable de relancer le chorus. Le chorus c'est ça, c'est en fait tous les oiseaux qui jouent comme avant, qui jouent leur pleine gamme. On est arrivé là ensemble, il n'y avait plus rien. On a commencé à faire trois rossignols, et là depuis, on baigne dans ce règne de son.
Mais parce qu'on a su à un moment donné se positionner et imiter, et en faire partie. Donc c'est presque faire partie de leur propre sphère à eux, et de devenir invisible. C'est l'envie d'aller dans la nature et de disparaître.
Alors restez avec nous sur France Inter, c'est Au de mon amour, parce que là nous allons effectuer une grande migration, si vous voulez. Nous étions donc dans les buissons, on l'a bien compris, du Hourdel, et là on va se déplacer, on va faire bien, je vous dis, 300 mètres pour se retrouver au bord de la mer.
Been running around, looking for me in town, hoping for something to sparkle my mind. 'Cause I've been out of touch, lost within, bored without. I sit chain smoking, I am to the bars. Yes, my laugh has turned fake, and my tears have turned dry. But my bluff is so fine, no one takes the time. But you were as fine, come crying me. Yes, you were eyes flying and come crying out. I've been killing my time for too long, but now I don't even know how to catch back with the flow right now. Nothing feels right and I'm glued to the floor. And everything I try, I did better before. So I do and undo myself of name. I tear off the mask and I put up with the fame. You sure as fly and come climb me. For something to sparkle my mind, 'cause I've been out of touch, lost within, bored without. I sit chain smoking and I empty the bars. Yes, my laugh has turned fake and my tears have turned dry, but my bluff is so fine, no one takes the time.
Envolé de la playlist et récupéré par Thierry Dupin, notre programmateur, c'était donc Lou Doyon qui vocalisait en anglais, vous l'avez compris, Clam Me.
CO2, mon amour.
J'ignore combien de temps je pourrais encore le retenir ici, Amaya. Il veut aller visiter le monde, rencontrer les oiseaux.
Denis Chessou.
C'est un esprit libre, comme sa mère.
Sur France Inter.
Tenez, un petit rappel sur le nombre des espèces de piafs chassées en Europe. 3 aux Pays-Bas, 13 en Belgique, 34 en Espagne, en Italie, 64 en France, dont 20 menacées de disparition. Nous sommes donc des champions d'Europe. Alors, toujours très épatés, les rossignols, les goélands, les pinsons, les barges à queue noire, les avocettes, les chevaliers gambettes et puis plein d'autres, écoutent Jean Boucaud, écoutent Johnny Rass et se disent « Ah, il leur manque plus que de savoir voler comme nous et un jour, vous verrez, ça ira. » Allez, on continue, on change un petit peu le lieu, je vous l'ai dit, toujours dans la baie de Somme. Alors là, on quitte en fait les buissons, on va quitter nos passereaux. Oh, et alors là, émerveillement, Johnny, parce que on arrive, là, ça y est, sur la baie de Somme. Oh là 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 là, et toutes ces couleurs.
C'est très très beau. Oh, c'est vrai que là, on a les nuages. On a vraiment une continuité, comme un fil tendu. C'est presque des strates, comme les sédiments qui se déposent dans la baie de Somme. Donc on a le gris, le parsemé de gris grâce au galet. On remonte, il y a du bleu argenté, presque comme des miroirs, c'est l'eau. Et derrière, on a le sable qui remet une teinte plus claire. Et après, on voit le crotoy au loin, qui fait comme un horizon, mais très sombre.
C'est ça.
Et ensuite, on touche aux nuages. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment très très beau avec ces oiseaux qui passent là-bas au loin.
Et l'odeur change complètement là aussi.
Une odeur maritime, du sel, de l'embrun. C'est... Oh, on a les galets, on entend les galets. Ah, c'est beau.
Quelques mots quand même sur cette baie. C'est-à-dire qu'on sait qu'inexorablement, il y a davantage, on va dire, de sable qui va rentrer à chaque marée par rapport à la force de la Somme qui est gentille mais elle est un peu indolente quoi. Donc elle n'arrive pas à chasser grand chose, elle apporte ce limon et donc au fur et à mesure on a de la terre qui gagne. Alors un jour elle sera sûrement complètement ensablée, mais donc ça veut dire que il y a des oiseaux aussi incroyables avec ce milieu.
Alors, ce qui est dingue avec la dynamique de la baie, c'est qu'évidemment, nous, on la voit s'ensabler depuis qu'on est petit. On a vraiment vu l'évolution, ça s'ensable, c'est-à-dire que le sable, la vase devient sable, la vase nourricière avec plein de vers devient un sable presque mort, il n'y a plus grand-chose dessus. Et donc, malheureusement, elle perd de son intérêt pour les oiseaux. Les oiseaux viennent encore ici, mais elle est un tout petit peu moins intéressante. Mais c'est ça qui est fort avec la nature et c'est fort avec les oiseaux, c'est que la capacité d'adaptation est quand même très très rapide. C'est-à-dire que les espèces qu'on a vues en notre génération évoluaient. Le cri de la mouette mélanocéphale, par exemple, c'est un oiseau qu'on ne connaissait pas dans notre enfance, qui est arrivé il y a une quinzaine d'années chez nous. Maintenant, il n'y a plus moyen de sortir sans entendre une mouette mélanocéphale. Il y a des jeunes goélands argentés.
Ah oui, au-dessus de nous.
Le jeune qui a faim, mais ça n'a pas marché du tout. Il n'y avait rien à faire.
Je me suis
pris un vent, mais c'est un peu dur
à travailler.
Alors on peut se prendre comme ça des petits vents, mais c'est ce qui rend humble.
Ouais, c'est bien.
Un oiseau qui ne vous répond pas, vous rentrez chez vous. Dites,
ça,
bon,
c'est vrai.
Je vais travailler encore un petit peu. Hein. Là, c'était violent.
Jean Boucaud, c'est vraiment ici le paradis pour au printemps, parce que là on a tout. Quoi.
Donc, il y a tous les passereaux qui viennent se protéger dans les argousiers, dans les ronces et dans les clématites pour nicher. Et donc c'est là que l'orchestre a lieu. Mais l'orchestre de l'hiver, l'orchestre des grands migrateurs qui partent vers l'Afrique en octobre, c'est sur les plages de la côte Picarde.
Oui.
Et alors là, d'un seul coup, le son va plus tout être le même. Tu es tout seul au milieu des grands espaces, tu as 5 km de sable devant toi, la mer qui monte, et là tu vas entendre des courlis, des chevaliers gambettes, des chevaliers aboyeurs, des gravelots,
des sternes, oui, tout à fait.
Alors là, la longue vue est braquée sur...
Ah, je cherche... C'est tellement difficile. Il y a cette fameuse chanson à la Clairefontaine, le fameux rossignol qui chante du haut d'un chêne. Alors ça, c'est du pipeau total. Hein.
Ah oui.
Le rossignol, ce qu'il aime, c'est ce qu'il y a de plus touffu. Il est tellement fragile avec ses petits 20 grammes. Lui, il se défend avec les épines de ronces, les épines d'argousier. La femelle niche dans les orties. Il faut que ça pique. Pour qu'il soit heureux, il faut que ça pique. Et
beaucoup de mensonges sur le rossignol, parce que le rossignol, normalement, on dit toujours qu'il chante que la nuit. Là, on est en pleine journée. Mais c'est vrai que la nuit, on l'entend le plus parce qu'il y a moins de son.
Il est tout seul. Et finalement, c'est fort parce que on a découvert qu'il y avait un sexe ratio disproportionné chez les rossignols. Il y a beaucoup plus de mâles que de femelles.
D'accord.
C'est beaucoup plus compliqué quand tu es dans une classe de garçons de trouver une copine.
Oui, parce que là, ça tient.
Et c'est tout le problème du rossignol. Il y a un merle qui vient de se joindre à nous. Et donc, le rossignol, en fait, ils sont en compétition, les trois mâles qu'on a autour de nous. Il y en a qu'un qui va trouver une femelle. Et finalement, ça les force à être virtuose, ça les force à se transcender,
à être meilleur.
Et d'ailleurs, c'est vraiment le symbole de l'amour.
Un petit passant.
Alors le passant, c'est génial parce que c'est crescendo des crescendo, ouais, avec la petite fin. Et la petite fin peut changer selon les régions parce qu'il existe un dialecte. Donc il y a des pinsons qui ont une petite virgule à la fin, une petite croche, et il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Il y en a d'autres qui finissent la séquence avant. Donc selon les régions, vraiment sud-ouest, sud-est et nord de la France.
Et alors ce qui est incroyable, c'est que ces accents-là ont un rôle pour les femelles. C'est-à-dire que les femelles vont privilégier les mâles qui chantent comme leur père, qui ont le même accent que leur père. Et là, on a découvert quelque chose d'incroyable, c'est que les femelles trompent leur mâle au petit matin. Lorsque le mâle va défendre le territoire, lorsque le mâle officiel défend le territoire, la femelle va partir se faire féconder par un mâle célibataire qu'elle chante le plus éloigné de celui de son mari ou de celui de son père. Et elle va ramener, en fait, du bon gène, des œufs fécondés, qu'elle va faire élever par le père officiel, qui va lui transmettre son chant aux nouveaux petits, qui chanteront finalement comme le père officiel. Et finalement, ça pose une question essentielle sur la paternité. Ouais. Qu'est-ce qu'il vaut mieux transmettre? Est-ce qu'il vaut mieux transmettre sa culture ou transmettre ses gènes? Et la pinsonne, justement, pose cette question essentielle. Réfléchissez, hein.
Et d'ailleurs, ce gène s'appelle quand même le gène Casanova.
Ah,
ça, c'est toujours la petite blague des scientifiques.
C'est le gène qui code pour l'infidélité féminine.
Incroyable. L'alouette des champs.
L'alouette des champs, elle chante durant 13 minutes. C'est-à-dire qu'elle utilise la respiration circulaire. Faut s'imaginer un oiseau, un tout petit oiseau, vraiment un ballon de baudruche, qui pourrait chanter pendant 13 minutes au-dessus avec cette force.
Incroyable.
Incroyable. Avec un fil tendu, parce qu'elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, jusqu'au moment où on la voit plus, elle disparaît complètement dans le soleil, mais on l'entend toujours.
Il y a encore un rossignol. Il y a un merle noir qui est venu se joindre. Alors le merle, c'est très, très timide. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas le brusquer, Il est bon aussi le rossignol qui chante derrière. Hein. Il chante bien. Hein. Il est en train de nous dire que c'est le maître des lieux. Alors des fois le merle, on peut le faire répondre en faisant le bébé qui a faim. Il arrive. Tac. Donc les merles, les 4 ou 5 petits qui sont dans le nid, quittent le nid avant d'être émancipés. Ils disent, en fonction du cri, de la répétition de ce cri, du rythme du cri, ils indiquent leur envie de manger.
Et alors, c'est comme de la marée chez vous. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre ce que vous êtes et puis ce que vous absorbez de nature, ce que vous lui redonnez.
Une oscillation entre la nature et nous-mêmes, je crois. Ouais. Et ce qui est fou aussi, c'est que je vois Jean en train de chanter là. Et je me dis, mais c'est le nombre de techniques. C'est assez fou, parce qu'à chaque fois, il utilise une autre technique complètement différente. Soit il siffle avec les doigts, là, il siffle qu'avec la bouche. Ensuite, il va siffler avec les deux mains dans la bouche. Et c'est vrai que depuis tout petit, on a ces techniques. On a trouvé ces techniques par nous-mêmes, par tâtonnement, en essayant, vraiment de façon empirique.
Ce qui est incroyable aussi, c'est que la gamme des oiseaux, tout ce qu'ils chantent, tout ce qu'ils produisent comme son, bah ça, c'est dans notre gamme sonore. Quel cadeau que les oiseaux nous font.
C'est dans la bonne fréquence.
C'est dans la bonne fréquence, on entend tout. Vous rencontrez
c'est pas le cas des baleines, par exemple.
Ou des éléphants ou des chauves-souris. Ils sont si proches. Ils sont si proches de nous, finalement. C'est des mammifères, ils portent leurs petits en eux. Et finalement, quand ils produisent des sons, on ne les entend pas. Et puis, ça aussi, la transmission, le chant qui reste pareil. Les enregistrements des premiers oiseaux qui ont un siècle maintenant, et bien quand on écoute un rossignol, c'est quasiment le même chant. Et de se dire que cette transmission orale du père au fils qui se transmet au fur et à mesure des âges, c'est juste incroyable. Alors là, on vient de voir.
Attendez, parce que là j'ai du chardonnay d'un côté, puis un peu de Vivaldi d'autre.
Exactement, ouais, c'est ça. C'est Cardellino, c'est drôle. Lui, c'est plus fin.
J'arrive plus à faire le chardonnay depuis qu'on a travaillé sur Cardellino, et à chaque fois, j'ai une petite note de Vivaldi qui vient. Non, dans la stratégie qui est géniale du chardonnay, c'est que lui, c'est toujours collé serré. Le couple, tout le temps, 24 heures sur 24, ensemble. C'est l'opposé des pinsons, des rossignols. Dès que tu vois un oiseau et qu'ils sont deux, c'est des chardonnays ou des linottes.
C'est du fusionnel, ça.
C'est du fusionnel. C'est l'amour, je ne te lâche pas. Alors, chez les oiseaux, en règle générale, quand ils sont fusionnels comme ça, c'est la femelle qui est devant.
Oui.
Il y a une galanterie qui est logique parce que l'attaque des rapaces se fait souvent par derrière.
Ah, bien.
Donc le mâle protège finalement l'arrière-train de sa femelle en se mettant derrière elle. Le chant d'oiseau, pour nous, est un vecteur. C'est-à-dire que, à la fois, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, quand on arrive, notre présence n'est pas anodine. Et on peut transmettre, on a fait des très jolies expériences, à la fois en prison, à la fois des expériences avec des jeunes, avec des autistes, avec
des
gamins,
des maisons de retraite. C'est magnifique.
Il se passe toujours des choses exceptionnelles. C'est tellement puissant, c'est tellement enrichissant, c'est tellement fort de voir des sourires. On a fait.
Vous imaginez des gens dans une maison de retraite qui
sont en fin de vie,
qui sont en fin de vie, qui peuvent pas sortir, qui sont presque dans une bulle glacée, on allait dire.
C'est
parce
vous
que,
qui les sortez.
Voilà.
Et ils ont des gens fenêtres. Sourires, mais et des sourires. Enfin, les
on a peut-être été les derniers ouais. oiseaux.
Et leur dernier sourire aussi.
Voilà. Et ça,
c'est extraordinaire de vivre ça.
Le meilleur qu'on reçoit à la fin d'un concert, c'est quand quelqu'un vient nous voir et nous dit, écoutez. Je crois que je vais écouter la nature différemment.
Ah ouais.
Je n'écoute plus les oiseaux, je sais qu'ils sont plusieurs. Et je sais qu'ils sont de diverses espèces. Et ça, c'est beau. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a changé leur écoute et je pense qu'on a changé leur regard. C'est presque nommer les choses. C'est à un moment donné, ce ne sont plus un ensemble, mais on nomme un roitelet, on nomme un rossignol, comme on nomme les plantes. Et ça ne devient plus étrange et étranger. Ça devient quelque chose qui nous appartient, qu'on nomme et qu'on respecte.
Je pense que ce reportage vous aura fait le plus grand bien. Donc, merci à Xavier Pessugia, donc à la base, et à Fred Milano, qui a sorti ses plumes pour recomposer donc ce moment. Donc, à la fois des chanteurs d'oiseaux, mais aussi de formidables raconteurs d'oiseaux. Alors, la semaine prochaine, je vous emmènerai pour une ronde de vœux. Dans les Hautes-Pyrénées, à l'entrée de la vallée de Gavarnie, il y a aussi la philosophe Cynthia Fleury, l'hiver aussi raconté par Jean-Marie Pelt. Et puis tenez, si vous voulez avoir une idée d'un reportage de CO2 Mon Amour sur le terrain, ben je vous renvoie à ce numéro double de Télérama avec un portrait donc signé de Sébastien Porte. Vous en saurez un tout petit peu plus. Merci à Loïc Frapsos, à Thomas Lehété, et puis, le podcast, vous en avez l'habitude, aussi bien pour l'Atelier du Mont Petit Loup que CO2 Mon Amour. Je vous souhaite un très très bon dimanche.